Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode questions-réponses avec Camille Bataillon, sexologue. À la fin de l'épisode 20 sur les sexualités et les parentalités, nous vous avions donné la possibilité de poser vos questions directement et anonymement via un formulaire de réponse. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont répondu via ce formulaire, celles et ceux aussi qui sont venus échanger dans messages privés sur les réseaux sociaux justement pour évoquer différentes problématiques. Nous avons pu trier en 4 grands thèmes les questions que vous nous avez posées. Nous parlerons donc de libido, de postpartum, de masturbation, et la question qui a suscité le plus de réactions, c'est la sexualité et le cododo. Un petit message pour juste rappeler qu'il n'y a pas une réponse générique ou générale à ces sujets-là. On parle d'humains, donc bien entendu, on va pouvoir donner des directions, peut-être des idées, des choses, mais en aucun cas, ça ne saurait être des recettes ou des méthodes à appliquer pour un résultat attendu. Nous vous invitons, si besoin, à échanger ou à consulter avec un ou une professionnelle. Je vais donc tout de suite commencer avec la première question qu'on nous a posée, qui était de savoir si la libido n'était toujours pas au top après un accouchement. Est-ce que c'est normal? Et quand est-ce que la personne va la récupérer? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors déjà, par rapport à la libido, qu'on appelle aussi le désir sexuel, il évolue au cours de la vie. Et là, en postpartum, justement, la baisse de libido peut être due à plusieurs facteurs. Donc ça peut être déjà dû à une extrême fatigue. Ça peut être dû justement au changement corporel, à une difficulté de se remettre de l'accouchement ou de la grossesse. Ça peut être dû aussi à la relation de couple. Est-ce que je me sens suffisamment soutenue? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens bien dans ma relation de couple? Ça peut être dû aussi à un baby blues ou alors une dépression postpartum aussi, et au fait de devenir maman. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de libido, sans oublier l'allaitement. Donc par rapport à l'allaitement, le fait d'avoir une baisse de libido, c'est quelque chose de physiologique, parce que quand on allaite, on va sécréter l'hormone de la prolactine, qui est du coup l'hormone de la lactation. Et donc cette hormone de prolactine, quand elle est plus élevée dans le corps, bah justement ça va venir diminuer le désir sexuel. Donc il y a déjà ça. Donc, il y a l'hormone de prolactine qui augmente, il y a la testostérone qui diminue aussi pendant l'allaitement. Donc, la testostérone, elle est liée aussi au désir sexuel. Et puis aussi, il faut savoir que quand on allait, ben, on a ce contact peau à peau avec l'enfant. Et donc, on sécrète aussi de l'ocytocine, où on se sent bien, où on se sent satisfaite. Et donc, on a peut-être aussi moins de besoin, moins de manque d'aller au contact du partenaire aussi, ou de la partenaire. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui viennent jouer sur le désir sexuel, d'autant plus aussi avec l'allaitement. Quand on allaite, il y a une baisse de l'œstrogène qui peut du coup causer des sécheresses vaginales. Et donc, quand on a des sécheresses vaginales, quand on se sent sèche, bah, peut-être qu'on a du coup une appréhension par rapport à un rapport sexuel avec pénétration, et donc ça va venir aussi jouer sur la libido. Par rapport à ça, hein, s'il y a un manque de lubrification qui, je le répète, est physiologique, on peut très bien désirer et ne pas forcément mouiller. Et donc, si c'est le cas et que vous avez envie d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, ben, il y a des gels hydratants ou il y a des lubrifiants qui existent pour venir créer une sensation de confort pendant la pénétration.
Et puis, il y a tout ce qui est sans pénétration.
Évidemment. Et du coup, donc évidemment, il y a tous les rapports sans pénétration. Donc là, ça va être les caresses, ça peut être les baisers, le sexe oral, tout ce qui vous fait du bien. Et donc ça, souvent, c'est ce que les couples oublient. Et je trouve que le postpartum, justement, est une opportunité pour les couples de faire aussi différemment. S'ils avaient l'habitude avant de faire toujours des pénétrations, de peut-être aussi venir enrichir leur vie intime avec des choses autres qui sont tout aussi satisfaisantes, voire même plus satisfaisantes.
Oui, tout à fait. Ça permet aussi de sortir de cette question un petit peu de la vision pénétrocentrée, phallocentrée de l'acte sexuel, alors qu'il y a tout un tas d'éventails, il y a un éventail de choses qui est possible. Pour le coup, dans ta réponse, il y a toute cette partie physiologique qui est extrêmement intéressante, donc c'est entre guillemets, j'utilisais le mot normal en fait, en tout cas ça s'explique physiologiquement parlant. La libido, moi de ce que j'avais compris, c'est que de toute façon, même hors postpartum, même hors parentalité, c'est quelque chose qui fluctue selon plein de facteurs, le stress, la fatigue, enfin voilà, plein de choses, et des facteurs internes aussi à la personne. Je me demande si ces questions, quelque part, toi de ton expérience de sexologue, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est subi de l'extérieur comme une pression d'avoir une libido et de devoir reprendre une activité sexuelle même après avoir donné la vie?
Tout à fait, carrément, c'est carrément une pression. Et c'est souvent ce qu'on entend, mais quand est-ce que je dois reprendre mes rapports sexuels? Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que c'est normal, pas normal? Donc il y a cette crainte. Moi, ce que j'aime demander, la question que j'aime poser aux personnes, c'est déjà, est-ce que vous en avez envie? Il ne faut surtout pas se forcer dans la sexualité parce que ça n'amène rien de bon, ni pour la personne, ni pour la partenaire, et donc ça n'amène rien de bon pour le couple. Donc vraiment s'écouter par rapport à ça. Si c'est par rapport à une quelconque pression, ce qui arrive souvent, par rapport à la société, même des fois les professionnels de santé aussi qui posent les questions, ou l'entourage, et c'est d'arriver à un petit peu se défaire de ça, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, et de vraiment se repositionner par rapport à soi. Qu'est-ce que j'ai envie, déjà? Est-ce que j'en ai envie? Et de quelle manière j'ai envie de vivre ma sexualité? Parce que ça peut être aussi un bon moment pour justement faire une introspection sur sa vie intime, sur sa relation de couple. Comment on a envie de faire couple aujourd'hui, maintenant qu'il y a un enfant, des enfants aussi au sein de notre famille?
Mais complètement, c'est vrai que cette pression, elle est tangible, et moi j'espère que ça pourra rassurer les gens d'entendre que la libido, en fait c'est quelque chose qui fluctue, et que moi de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que la clé, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais ça pourrait être justement de s'en parler, et la communication, et de ne pas être dans la crainte du jugement de l'autre au niveau de la relation de couple.
Et c'est valable pour tout. Et par rapport à cette pression de « est-ce que je suis normale ?» parce que tout le monde reprend des rapports intimes, et surtout souvent ce qu'on imagine c'est avec pénétration très rapidement, c'est faux. Les études montrent que justement le désir sexuel pour les personnes en postpartum, donc là ça s'adressait principalement aux femmes, aux personnes qui avaient accouché, à 3 mois postpartum, il y a au moins la moitié de ces personnes-là qui n'ont toujours pas retrouvé de désir sexuel. Alors évidemment après ça va monter au cours de la première année, on va retrouver du désir sexuel, et au bout d'un an c'est plus que 9 personnes qui n'ont toujours pas retrouvé de désir sexuel. Donc en fait, la première année, c'est vraiment l'année où déjà il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça, parce qu'il y a déjà tellement d'injonctions déjà à devenir parent, à s'occuper de son enfant, etc., que la première année, en tout cas dans la relation de couple, ce n'est pas forcément une année où il va y avoir une fréquence dans les rapports sexuels avec pénétration, mais même autres. Souvent, on voit justement que ça diminue un peu. Mais par contre, la qualité, généralement, augmente. En tout cas, pour les couples qui se donnent le moyen de se dire « Ok, on va faire les choses différemment, on communique, on s'écoute et on prend du plaisir à ce qu'on a envie de mettre en place.
» Complètement. Et justement, tu parles de cette période-là d'un an, et on a une question, on va passer au deuxième sujet qui peut concerner la masturbation, mais qui concerne encore aussi les bidos, donc cette question peut faire le lien. Je reprends la question mot pour mot. Notre enfant a 3 mois et ma femme n'a pas envie de faire l'amour. Je respecte ça, mais ma libido crève le plafond. Donc c'est un homme qui écrit, un père. Je fais le choix de la masturbation, mais elle culpabilise. Comment lui expliquer que c'est OK?
Super intéressant, ouais. Déjà, on a la croyance aussi que c'est les hommes en postpartum qui vont mettre une certaine pression par rapport au retour à la vie intime. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça va être les femmes aussi qui vont avoir envie de revenir à cette vie intime, et les hommes qui vont être plutôt à freiner. Il y a eu des études là-dessus qui ont montré. Alors, pour revenir du coup à ce papa, donc quand il dit que sa partenaire n'a pas envie de faire l'amour, déjà, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'elle entend par faire l'amour? Est-ce que s'ils avaient l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire l'amour avec pénétration, mais peut-être qu'elle serait OK de faire différemment. Donc là, ça serait peut-être de pouvoir, dans le couple, communiquer là-dessus pour trouver peut-être des pistes. Et puis donc pour ce monsieur qui du coup a une libido qui est bien présente et qui se dit voilà, je me masturbe et je trouve ça super chouette parce que du coup ça montre qu'il est autonome dans son désir mais aussi autonome dans son plaisir et de prendre comme tu l'avais dit dans l'autre podcast Cédric va d'être responsable aussi de son plaisir et de son désir. Donc il est autonome là-dessus, il met pas forcément une pression vis-à-vis de sa partenaire de faire quoi que ce soit. Par contre, là, on voit que c'est la partenaire qui a un peu plus de difficulté à penser que son mari puisse se masturber. Donc là, ça va être de voir déjà que le mari puisse expliquer pourquoi il le fait, parce qu'il en a besoin, que ça lui fait du bien et qu'il a quand même besoin de se sentir bien. Mais de voir du coup au niveau de la partenaire, bah tiens, qu'est-ce que ça vient dire en fait ? Qu'est-ce que ça vient jouer ? Parce que souvent, il y a des craintes de... En fait, peut-être que je ne suis pas suffisante, ou alors il va penser à d'autres femmes quand il se masturbe, ou alors c'est mal de se masturber. Donc là, ça va être de pouvoir voir au niveau de la partenaire quelles sont ses croyances vis-à-vis de la masturbation et ses craintes aussi, pouvoir la rassurer. Et lui dire que c'est normal, que c'est normal aussi, c'est tout à fait sain que son mari se masturbe.
Mais ça, c'est vrai que c'est un gros sujet dans les couples et même dans la vie, hein, que ce soit dans, parce que là on parle des couples, mais même dans la vie, dans la croyance que la masturbation c'est plus ou moins bien, parce que moi je pense, tu vois, à la période de l'adolescence où t'as plein de légendes urbaines sur le sujet, ça rend sourd, ça machin, ça truc, c'est mal. En fait, on t'explique que c'est mal. Alors que tu, pour reprendre aussi tes propos dans le podcast précédent, moi ce que j'ai compris c'est que c'est juste une libération de l'énergie sexuelle parce que sinon tu pètes un câble aussi, tu vois. C'est pas bon de garder cette tension. Et en effet, déjà, ce que je retiens de ta réponse, c'est en effet la définition de qu'est-ce que c'est faire l'amour avec sa partenaire, ça peut être chouette de creuser ça, parce qu'il y a moult possibilités. Et en effet, ensuite, c'est vrai que c'est cette culpabilité vis-à-vis de l'autre. Alors là, dans ce cas-là, on est sur un élément où la partenaire exprime qu'elle culpabilise. Mais c'est vrai que... là, je vais étendre un peu le sujet parce que c'est quelque chose que je connais aussi en discutant avec des gens que je connais, des amis, où pour eux, ils se disent, alors que ce soit vrai ou pas, mais ils se disent, non mais moi, ma femme, elle ne se masturbe pas parce que c'est bon, je lui suffis. Mm. Tu vois, donc ça, c'est un gros sujet.
Et, oui, ça et vient toucher ça l'ego aussi.
Ça vient toucher l'ego, et ça vient toucher une certaine vision de la virilité, de la masculinité qui est totalement toxique et nocive. Mais ça amène pour le coup la question suivante sur la masturbation que je trouve aussi fort intéressante. Celle-là aussi, je vais la donner telle qu'elle. J'ai 35 ans et je ne me suis jamais masturbé. C'est une femme qui écrit. Je sens bien que je passe à côté de quelque chose. Comment commencer et comment en parler avec mon mari ?
Là déjà, donc on voit donc, cette personne qui a 35 ans, qu'elle a cette envie de se masturber, mais qu'elle ne sait pas encore comment procéder. Déjà de voir s'il y a pareil encore, s'il y a des croyances ou quelques blocages par rapport à la masturbation, peut-être aussi une forme de culpabilité, de fait de ne pas s'être masturbé plus tôt. Ça, c'est ce que je retrouve aussi chez certaines personnes, de dire, bah voilà, j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, mon Dieu, je découvre seulement la sexualité et donc je culpabilise beaucoup. Donc déjà de pouvoir voir avec elle comment elle se sent par rapport à ça. Et puis ensuite, par rapport à la masturbation, déjà de savoir que c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui peut faire du bien et qui a plein de bénéfices. Et ensuite, comment mettre en pratique ? Y a pas de, comme je dis souvent, hein, il n'y a pas de recette magique. Alors, on peut toujours se renseigner sur Internet sur des manières de se masturber, mais toujours se demander, OK, je vais partir à l'exploration de mon corps, je vais voir, je vais varier les rythmes, je vais varier les pressions, je vais toucher à différents endroits. Juste voir comment mon corps est câblé, à quoi il est plus sensible. Et de passer du temps justement sur ces zones sensibles, une fois que je me suis rendu compte, ok, les zones qui sont les plus sensibles, et de venir passer du temps donc, en stimulant, en caressant, comme je disais, en pénétrant, si on veut pénétrer le vagin, si on veut pénétrer l'anus, etc., en stimulant le clitoris, en ayant des mouvements de pression sur les lèvres externes, des caresses des seins, etc., le bas du dos, de vraiment pouvoir envelopper tout ce corps pour le découvrir et de le faire dans un moment où où c'est un moment à soi, comme si on était aussi impatiente d'avoir ce moment privilégié avec soi et qu'on le fasse justement dans un cadre qui est propice justement à ressentir des sensations, à ressentir du plaisir, donc un endroit où on sait qu'on ne va pas être dérangé, à un moment donné où on est au calme et où on n'est pas trop stressé, où on peut vraiment se détendre. Et puis par rapport du coup à comment parler à son partenaire, alors là pareil, est-ce qu'il y a forcément besoin d'en parler avec son partenaire? Ça peut être quelque chose qu'on garde pour soi, un jardin intime. Après pour la personne, des fois ça peut être rassurant ou même de vouloir juste partager ça avec l'autre, et bien de trouver un moment où vous êtes tous les deux aussi propices à une discussion, de pouvoir simplement exprimer votre envie. Voilà, j'ai envie de m'explorer, j'ai envie de découvrir la masturbation, ça va être un moment pour moi, je suis tellement contente et j'avais envie de te le partager. Il n'y a pas besoin de lui dire « est-ce que tu es OK avec ça ?» parce que la personne doit être OK avec ça. Point final.
Merci de le dire. Ça, c'est vraiment un point qui me semble important, c'est que, et c'est quelque chose qu'on a déjà dit ensemble, hein, c'est que notre plaisir, notre désir nous appartient et que l'autre n'a pas à être OK ou pas OK. En fait, on n'a pas besoin de demander la permission pour explorer son désir et son plaisir. C'est vrai que sous cette question, on en parlait l'autre jour sur un autre réseau social audio. On en parlait, on avait une discussion là-dessus, et il y a une personne qui pointait aussi la possibilité qu'il puisse y avoir une injonction en ce moment avec... alors, il y a une vraie libération de la parole sur le plaisir féminin et sur le désir féminin, et c'est une belle chose, et moi c'est quelque chose que je soutiens mais à 4000%. Mais on voit aussi émerger des discours indiquant que est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une injonction à se masturber, une injonction à l'orgasme pour des personnes qui ne seraient pas forcément intéressées.
Oui, tout à fait. Et même moi, du coup, ça m'amène à vraiment avoir une réflexion là-dessus et de me dire, OK, est-ce que dans mon discours, je ne rajoute pas une nouvelle injonction à l'épanouissement sexuel, à il faut se masturber, etc. Vraiment, j'essaye de nuancer au mieux mon propos par rapport à la masturbation. En fait, moi, je me ressens toujours sur la personne. Est-ce que vous en avez envie? Quand elle me dit non, bah, OK, je respecte ça et on va vers d'autres pistes. Parce que je sais, et encore cette semaine, j'ai eu une cliente qui me disait qu'elle avait vu une professionnelle de la santé qui lui avait dit bah, « vous n'êtes pas normale, vous ne vous masturbez pas, il faut vous masturber, achetez ce sextoys, etc. » Évidemment, ça n'a pas marché. Et la personne s'est sentie encore plus, elle culpabilisait, elle ne se sentait pas normale. Donc moi, je récupère pas mal, entre guillemets, hein, de récupérer de personnes qui culpabilisent de ne pas vouloir se masturber, culpabilise de ne pas se masturber, de ne pas savoir comment se masturber et se disent « mais je ne suis pas normale ». Donc oui, il y a une forme d'injonction supplémentaire qui se veut à la base plutôt bienveillante, on se découvre, on explore son corps, la masturbation a plein de bénéfices, etc. Et je pense que ça serait aussi à ajouter, c'est si vous en avez envie, ça peut être bon pour vous, ça peut avoir des bénéfices.
Ouais, je pense que c'est important de s'interroger sur le souhait de... sur ce qui provoque cette envie ou ce désir d'explorer son corps et la masturbation. Moi, je sais que dans l'approche, il y a quelque chose qui me semble être important. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. C'est aussi l'approche que la masturbation n'est pas forcément un objectif de performance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en tout cas à titre personnel, où j'ai commencé à concevoir la masturbation plus comme... La recherche de l'éjaculation, mais comme le fait de se faire l'amour à soi-même, ça change complètement le rapport au sujet, et c'est aussi quelque chose qui peut être perçu différemment, quoi. C'est un moment de bien-être personnel qui concerne la personne, et c'est plus, je vais être très vulgaire, ça n'est plus l'occasion de se vider les couilles, c'est complètement autre chose. Là, je parle pour les mecs, bien évidemment. Ce qui peut être super chouette, en tout cas, moi je trouve que ce qui peut être super chouette dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est que au-delà de la notion de performance et d'atteinte de l'orgasme, comme tu l'as si justement décrit dans l'exploration justement, ça peut aussi amener à d'autres pratiques et justement aussi à être à l'écoute. Et là, je parle à vous messieurs ou à vous partenaires qui pouvez nous entendre et qui peuvent avoir des partenaires qui explorent la masturbation. Ça va aussi être l'occasion d'être à l'écoute, peut-être de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles caresses, de nouvelles choses, parce que la personne, en ayant découvert son corps, va pouvoir sûrement vous guider vers un plaisir partagé, différent, et ça peut être super intéressant.
Et oui, et la sexualité, c'est pas une performance, c'est une expérience. ce sont des expériences. Et souvent, ça, on l'oublie et en consultation, et c'est ce que j'ai très, très souvent, cette pression à atteindre l'orgasme, surtout du côté du coup des personnes à vulve. Pour les personnes à pénis, ça va être la pression de tenir le plus longtemps possible. L'injonction, bah oui, effectivement, à la masturbation, d'être « oui, mais en fait, quand je me masturbe, bah, j'ai pas d'orgasme. » Ok, est-ce que vous ressentez quand même du plaisir ? Oui. Mais c'est génial, continuez l'expérience, il n'y a pas de but en fait. Et ça, je l'ai vraiment compris de par des formations que j'ai faites justement en slow sex, en pleine conscience, où il n'y a pas du tout cette notion de performance ou de but à atteindre ou de technique à faire. C'est vraiment plutôt être dans alors je répète, hein, mais dans l'exploration, dans l'écoute de son corps, des sensations. Et ça offre une telle liberté. Et c'est vrai, des fois, je me demande, mais tiens, d'où vient cette performance que je rencontre beaucoup en consultation ? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert justement en consultation ou à travers mes cours, parce que c'est pas quelque chose au niveau de ma vie personnelle que j'ai ressenti. Alors peut-être parce que j'ai presque jamais regardé de porno en étant jeune, mais j'ai toujours été dans « je me fais du bien », je suis vraiment dans ma bulle, dans ma vie intime. Et je pense que oui, effectivement, pour les personnes, c'est ce qu'on peut entendre de par les magazines ou ce qu'on peut voir dans les contenus pornographiques ou même des fois, voilà, ce qu'on a entendu, les croyances qu'on se fait.
Ah ben c'est clair. Alors là, je peux t'apporter mon expérience en termes de pornographie mainstream, malheureusement. Clairement, il y a une vision qui est totalement faussée et portée par cette pornographie. Outre les violences et les abus qui sont faites aux personnes réalisant les performances, il y a quand même une notion qui est totalement faussée. Déjà, qui est extrêmement pénétrocentrée, où il faut en effet avoir... Alors là, je parlais pour les mecs, hein, en termes de pression de la performance, où il faut tenir longtemps, il faut avoir un pénis gros, avec une éjaculation extrêmement abondante, et le but ultime du rapport, c'est justement cette éjaculation qui, finalement, quand tu pratiques d'autres choses, devient assez anecdotique, et surtout quand tu comprends et que tu expérimentes le fait que tu peux très bien avoir un orgasme sans éjaculer. Surprise. Et si tu veux, il y a vraiment ce côté-là, je pense, qui vient polluer, tu vois. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça peut être important de pas hésiter à prendre rendez-vous avec un ou une sexologue sur le sujet. Ça veut pas dire qu'on a un problème. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est que ça veut pas dire qu'on a un problème. Ça veut juste dire qu'à un moment, on a envie d'expérimenter et qu'on sait pas forcément par où prendre le sujet, quoi.
Tout à fait. Donc, dès qu'on a des questions sur sa vie intime ou qu'on sent qu'on est bloqué aussi par rapport à quelque chose ou qu'on veut améliorer, qu'on veut se sentir mieux, bah, de ne pas hésiter évidemment à consulter des sexologues pour vous accompagner justement sur ce cheminement. Ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On avait une autre question qui a été posée en deux parties et qui venait toucher un sujet fort intéressant. Il y avait une partie sur la libido en postpartum que nous avons déjà traité. Et l'autre partie, ça concernait les envies d'un autre partenaire, donc c'est une femme qui la pose, d'un autre partenaire, donc d'un autre homme en l'occurrence, parce que ça pourrait être des envies d'autres partenaires de sexes différents ou de genres différents. Et la personne exprime que ses envies d'un autre homme sont d'autant plus fortes depuis son retour en couche récent. C'est une personne qui allaite un fils de 2 ans et demi. Et elle demande s'il y aurait une part très primaire de recherche instinctive, physique, hormonale, d'un partenaire pour la reproduction.
Par rapport à ça, voilà, y a pas de lien, c'est normal, c'est sain de ressentir du désir sexuel, que ce soit pour son partenaire, mais aussi pour d'autres personnes. Alors c'est vrai que dans notre société, dans nos croyances, quand on est en couple, généralement, on se dit en couple monogame. Et donc, ça veut dire qu'on vit une sexualité qu'avec ce ou cette partenaire. et qu'on on est exclusif, notre sexualité exclusivement avec cette personne, et aussi notre amour est avec cette personne. Donc si on a aussi des fantasmes, nos fantasmes doivent être dirigés vers cette personne qu'on aime. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est loin d'être le cas. Et quand ce n'est pas le cas, bah, les personnes culpabilisent, un peu peut-être comme cette dame qui se pose des questions et qui se demande bah, est-ce que c'est normal, pas normal. Donc c'est tout à fait sain, comme je le disais, d'avoir des fantasmes. C'est justement un bon moyen aussi de venir stimuler son excitation sexuelle, son désir sexuel, d'imaginer des fantasmes, des scénarios sexuels. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, on aurait envie de ça, comme ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre en pratique forcément. En tout cas, ça vient nourrir. Donc, de penser à d'autres personnes, ça vient nourrir le désir sexuel. Après, c'est peut-être intéressant de se dire, bah, tiens, est-ce que déjà dans sa relation, elle se sent bien ? Parce que des fois, ça peut être aussi symptomatique de quelque chose qu'elle aimerait peut-être explorer avec son partenaire et qu'elle n'ose pas peut-être communiquer avec lui. Donc, elle fantasme avec d'autres personnes où là, il y a une possibilité. Donc voilà, c'est un sujet assez vaste, mais tout ça pour dire aussi que bah, voilà, c'est très sain d'avoir des scénarios sexuels dans sa tête avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus son conjoint ou sa conjointe, ça ne veut pas dire non plus qu'on a envie forcément de tromper son ou sa partenaire si on est en relation monogame. C'est quelque chose de sain et voilà, c'est à explorer.
Ben, c'est vrai que bon, sur la partie instinctive, il n'y a pas de, comment dire, anthropologiquement parlant, il n'y a pas de réponse qui vienne confirmer la question de la personne. Par contre, c'est vrai que, et je te remercie de poser le sujet, c'est vrai que ça vient interroger quand même l'ensemble de croyances qui constituent nos sociétés sur la monogamie notamment. Sur la monogamie comme modèle à suivre, à respecter. Hein. On est quand même dans une société judéo-chrétienne très prononcée en France et avec tout un tas de croyances qui viennent. Alors, je ne vais pas dire limitées parce que ça convient à des gens et c'est OK. Mais en tout cas, qui viennent expliquer qu'il y a une norme à suivre et que quand on ne la suit pas, ben, y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est peut-être problématique.
Oui, ou des croyances qui viennent bloquer peut-être la possibilité d'explorer autre chose différemment qui pourrait peut-être nous plaire, mais on s'en empêche de le faire ou d'y penser parce que c'est mal.
Et c'est vrai que ça rejoint un peu le sujet, tu sais, des rêves érotiques, par exemple, avec d'autres personnes où on peut se sentir, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, enfin, ça arrive.
Oui.
Il y a sûrement des gens qui ne s'arrivent pas, mais en tout cas, ça arrive à plein de gens.
Et ça arrive d'autant plus chez les personnes qui sont enceintes et aussi au moment de l'ovulation. Donc voilà, c'est un phénomène quand même
bon
qui est assez courant.
Non, mais c'est bon à savoir, donc tout va bien. Et ça ne veut pas dire que... c'est vrai que quand ça arrive, on peut avoir... En tout cas, moi, ça m'est arrivé de me réveiller et puis d'avoir une petite culpabilité de me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que c'était un rêve déjà et que finalement, ça n'implique rien. Et par contre, ça vient interroger, je reviens là-dessus, hein, ça vient vraiment interroger ses croyances au niveau de la monogamie, au niveau de l'exclusivité, au niveau de l'amour exclusif, et ce fait aussi que le désir sexuel est forcément lié à l'amour, quoi.
Mmh. Ouais. On peut, oui, effectivement, on peut très bien aimer une personne et ne pas la désirer, comme on peut désirer très fort une personne et ne pas l'aimer. Donc, il n'y a pas de corrélation entre désir et amour. On peut avoir les deux, comme on peut avoir aucun des deux, comme on peut avoir l'un ou l'autre.
Et que ça peut fluctuer aussi, en plus.
Et que ça fluctue, ouais. Ouais. Très complexe, ça, tout ça.
C'est compliqué. Alors, c'est vrai que si je devais retenir un élément de réponse pour la personne, ça serait plutôt de se dire bah, déjà que tout va bien, que tout est OK, et de se dire qu'il bah, y a peut-être un des éléments de croyance à aller creuser, peut-être, et à se... Moi, ce que je me dirais, tu vois, en tant qu'accompagnant, c'est est-ce que... Qu'est-ce qui pousse la recherche d'une justification instinctive, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller creuser là-dessus pour justement se dire, il y a peut-être un truc où la personne pense que ce n'est pas OK, alors qu'en fait, ça l'est, ouais. Et qu'il faut juste en parler, quoi.
En parler, je pense que cette personne avait surtout besoin de réassurance plutôt que de vouloir justifier sur quelque chose d'instinctif ou de biologique. Voilà, réassurance et profiter de quand il y a des rêves érotiques, profiter de ce plaisir à imaginer des scénarios qui vous donnent envie, voilà, kiffer.
Et puis qui peuvent pour le coup amener peut-être des réflexions et des situations en rêve.
Oui, et enrichir du coup la vie intime du couple aussi.
C'est ça. Et bien, on va arriver sur le dernier sujet. Pas des moindres, on a eu beaucoup de retours, pour le coup, sur un sujet qui était la vie intime et le cododo. Donc, moi, je voudrais juste, avant de te laisser la parole, reposer un petit peu le sujet du cododo. Avant de parler de vie intime et le cododo, le sujet du cododo. Donc, le cododo, c'est donc le fait de dormir dans la même pièce que son enfant, potentiellement dans le même lit, et juste une chose, il y a plusieurs façons de pratiquer le cododo. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, parce que ça n'est pas la même chose de dormir avec un berceau accolé au lit, avec l'enfant dans le lit, avec un lit par terre, avec un matelas par terre, il y a plein de choses, il y a plein de situations de cododo qui sont possibles. Donc je vous demanderai de garder ça à l'esprit pendant les réponses, parce que ça vient forcément influer sur les situations des gens. Et aussi sur le fait que le cododo, dans notre société, dans notre culture occidentale actuelle, c'est quelque chose qui n'est pas la norme, justement. C'est quelque chose qui est perçu pour différentes raisons. Je vais pas refaire l'historique, mais pour différentes raisons, c'est quelque chose qui a été exclu de la pratique commune. Et alors que dans d'autres cultures, c'est totalement la pratique commune. Je vais reprendre l'exemple du Japon, par exemple, où la norme au Japon, c'est de dormir jusqu'à l'âge de 6 ans en cododo. Donc, et les Japonais et les Japonaises n'ont a priori pas arrêté de leur vie sexuelle pendant 6 ans. Donc voilà, c'est juste remettre un petit peu le contexte sur le cododo, sur le fait que ça se pratique de différentes manières, qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de petites cases à cocher de la checklist du cododo parfait, déjà de 1, et de 2, qu'il faut remettre ça dans un contexte socioculturel qui est le nôtre, et qui n'est pas... forcément, à l'échelle mondiale, quelque chose qui est pratiqué partout. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, la question qui revenait le plus, c'était comment associer la vie intime et le cododo.
Ouais, une grande question. Souvent, il y a cette crainte, hein, d'ailleurs, des parents qui disent, voilà, on ne veut pas faire du cododo parce que ça va venir bousiller notre vie conjugale et ou alors, voilà, on ne veut pas avoir un enfant à côté de nous quand on a des rapports intimes. Donc, c'est tout à fait, il faut sentir de toute façon ce qu'on a envie de mettre en place. La question, moi, ma première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre cododo et baisse de désir sexuel ? Il y a presque aucune étude là-dessus. Il n'y a d'ailleurs aucune étude là-dessus sur cododo et sexualité. Donc, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Comme on l'a vu juste avant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la vie intime au-delà du cododo. La fatigue, le manque de créativité par rapport à sa vie intime, les nouveaux rôles, le corps qui a changé. Ça, je pense que c'est des éléments encore plus importants que le cododo en soi dans la vie intime. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour les couples qui pratiquent le cododo et qui veulent continuer à prendre soin de leur vie intime, eh bien, il y a mille et une façons de le faire. Déjà, la sexualité ne se vit pas forcément dans un lit, dans son lit. Elle peut se vivre dans un lit, dans la chambre d'amis ou sur un canapé ou dans d'autres pièces de la maison. Il y a certains couples qui, des fois, même quand il y a plusieurs enfants et qu'il n'y a plus de pièces disponibles, s'enferment dans la salle de bain et vivent leur moment. Donc, c'est une vivre leur moment où même des fois, bah, laissent les enfants, prennent quelques minutes et vont même peut-être des fois dans la voiture ou faire une balade, etc. pour prendre un moment à soi. Ensuite aussi, quand on parle de vie intime, comme on disait, on voit souvent une pénétration. On peut aussi vivre sa vie intime et satisfaisante d'autres façons. Que ce soit du sexe oral ou des caresses. Et ça, c'est pour ça certains couples se sentent à l'aise de le faire, même quand il y a l'enfant dans la chambre. Donc voilà, c'est de voir déjà vous ce que vous avez envie d'expérimenter, de quelle manière, dans quel lieu vous vous sentez le plus à l'aise, parce que ça, c'est quand même important. Faut pas se forcer et se dire, bah voilà, je dois avoir un rapport intime avec ma partenaire, mais je me sens pas du tout à l'aise parce que là, l'enfant, je sais pas quand est-ce qu'il va pleurer, quand est-ce qu'il va se réveiller. Donc déjà, il faut arriver, c'est un fait, l'enfant, on ne va pas le contrôler, il peut pleurer à tout moment, quand il marche ou se lève, il peut venir dans la chambre à tout moment ou venir dans le lit à tout moment. Donc c'est déjà de se dire, ok, ça c'est un fait, et d'arriver à créer un contexte qui peut être pour vous favorable à la détente. Et d'ailleurs, il y a eu, alors c'est une étude qui n'est pas scientifique, mais dans un magazine qui s'appelle Mama, qui a interrogé 663 mères suédoises par rapport à leur vie intime sexuelle. Et donc, ces 663 mères suédoises ont affirmé qu'elles avaient au moins un à deux rapports sexuels par semaine depuis qu'elles étaient maman. Alors par contre, je ne sais pas, voilà, maman en postpartum depuis combien de temps, mais en tout cas, elles indiquaient une quantité, on va dire, de rapports sexuels plus élevés que la moyenne européenne. Et donc, les Suédoises seraient celles qui ont le plus d'activités sexuelles en Europe, en même temps en étant celles qui sont le plus adeptes du cododo. Donc là, on voit bien aussi qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre cododo et baisse de la vie intime. Alors, on aurait beaucoup de choses à s'inspirer justement des Suédoises. Déjà, ce n'est pas la même aussi culture dans les pays nordiques par rapport à la nudité. Elles sont déjà plus à l'aise, plus confortables. Elles ont des cours à l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, dès 11 ans. Donc, c'est aussi une autre approche de la sexualité. Et puis, c'est aussi, le suédois, c'est un langage où c'est assez direct. Et donc, quand elles peuvent parler plus, on va dire, crudement, enfin, plus franchement. Et donc, ne vont pas forcément être dans la retenue ou pas être forcément dans la pudeur ou dans le jugement de « c'est pas bien », etc. Elles vont plutôt être dans une liberté en étant à l'aise avec la nudité et la sexualité. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à s'inspirer.
Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a, il y a ce côté. Alors, c'est vrai qu'on en revient encore une fois à ce petit challenge qui attend les parents de trouver des solutions. Moi, j'aurais envie de dire, si tu veux, pareil, je vais poser une phrase de coaching, mais au lieu de se demander si c'est possible, de se demander comment c'est possible. Et ensuite, on peut venir interroger plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a ce côté, en effet, où on peut remettre en question les pratiques et notre vision de la sexualité et de l'intimité qui peut être intéressante. Par exemple, tu l'as très justement dit, on est sur le canapé, on regarde un film, bon ben c'est peut-être l'occasion de faire des choses, peu importe ensuite les pratiques, mais ça peut être l'occasion. Alors là où en tant que moi parent, je rejoins totalement un fait, c'est cette espèce de petite pression et de stress qu'il peut y avoir quand l'enfant se réveille. Alors oui, franchement, on va pas se mentir, c'est chiant quand ça arrive en plein acte sexuel ou acte intime. Mais j'ai envie de te dire, écoute, voilà, c'est comme ça. Et puis si on veut d'autres moments, on peut potentiellement essayer de trouver d'autres solutions quand l'enfant est gardé. Si l'enfant est à l'école, peut-être que c'est le moment d'essayer de se rejoindre pendant une pause entre midi et deux. Si l'enfant est scolarisé, par exemple, voilà, il peut y avoir plein d'éléments à mettre en place. Concernant le cododo, tu as soulevé un point qui est un point que j'ai creusé pour le coup, que j'ai vraiment creusé sur le sujet, c'est le fait de le faire avec l'enfant présent dans la chambre ou dans le lit. Alors, avant tout, moi je tiens à préciser qu'à titre personnel, c'est pas que nous on pratique le cododo en famille, hein, y a pas de souci, notre fille a 2 ans et demi, et par contre il ne se passe rien de sexuel dans le lit. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'intime. C'est-à-dire que je tiens ma compagne dans mes bras, on peut se caresser la main, le bras, qui sont des actes intimes, hein, je tiens à le rappeler. Mais il ne se passe rien de plus parce que c'est notre vision, parce que c'est notre vécu et qu'on ne souhaite pas le faire. Après, ça s'appuie sur quoi ? Eh bien, je vais vous le dire, ça s'appuie sur rien en fait. Ça s'appuie sur un ensemble de croyances sociales et on les a, alors on les accepte, on fait avec. Mais ça s'appuie sur rien. Et là, je voudrais un petit peu lever le mythe que je peux voir passer sur les réseaux ou dans des articles qui s'appuie en fait sur rien. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas traumatiser votre enfant si vous avez un rapport sexuel à côté de lui en cododo. Alors attention, là, je vais rajouter les garde-fous que j'ai pu trouver. On se parle là des premiers mois de la vie. Arrivé à 12 mois, en fait, par exemple, ce qui peut être plus embêtant, sans parler de traumatisme, il faut un petit peu arrêter avec ce mot qu'on utilise à tort à travers, mais ce qui peut être plus embêtant, c'est que si l'enfant se réveille, il va avoir un petit peu plus conscience de ce qui se passe et de ce qu'il va voir. Donc là, ensuite, il faudra poser des mots dessus, et c'est encore un autre exercice. Alors pour le coup, j'ai creusé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que le faire l'amour dans son lit ou quand il y a du cododo, alors peu importe ensuite la structure de cododo, mais dans la même pièce, on va dire, c'est parce qu'il y a en effet une étude qui existe et qui explique que l'enfant, dès sa naissance, dans son sommeil, perçoit l'ambiance de son environnement. Et donc il y a des gens qui ont écrit, voilà, donc si on met une ambiance érotique, l'enfant va percevoir l'ambiance érotique et ça va le traumatiser. Ceci est totalement faux. Et là-dessus, les pédopsies se sont clairement exprimées sur le fait que la perception d'une ambiance érotique par un enfant n'est pas du tout réelle, c'est pas du tout quelque chose de réel. En fait, c'est juste la projection de notre perception qu'on fait sur l'enfant, ce qui est aussi un raisonnement tout à fait normal, hein, je vous assure, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais il faut juste en avoir conscience. La perception d'un acte sexuel par un enfant, notamment un très jeune enfant, par rapport à celle d'un adulte, elle a rien, mais rien à voir. Donc non, vous n'allez pas traumatiser votre enfant. Voilà, parce qu'il y a des parents qui m'ont aussi écrit, qui nous ont écrit en expliquant qu'eux, ils faisaient et qu'il n'y avait pas de problème et qu'ils se sentaient bien. Mais très bien, si vous vous sentez bien, continuez. Et juste une petite chose, attention, arrive à un certain âge, si l'enfant se réveille, il y aura sûrement des mots à poser sur ce qui se passe si l'acte est vu. Mais après, franchement, entre nous, moi, si demain on devait tenter un truc, il y a des astuces. On reste sous la couette, enfin voilà, on n'est pas visible, on fait des choses plutôt douces. Enfin voilà, l'enfant ne va pas se réveiller et tomber sur un porno, quoi. Enfin, non, mais tu vois, il n'est pas en train de surfer sur Pornhub, quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose où il faut aussi déculpabiliser ses parents qui on trouve un équilibre de vie intime avec le cododo, parce qu'en effet, il y a des discours, notamment sur les réseaux, qui sont extrêmement alarmants et qui ne s'appuient en fait sur rien. Il n'existe rien sur le sujet pour vous dire ne faites pas l'amour dans la même pièce que votre enfant qui est en cododo. Voilà. Il y a même, alors concernant le cododo, il y a même, et là je vais clairement, là, je sors un petit peu de la sphère de la question, mais il y a même des gens qui écrivent et qui considèrent que le simple fait de pratiquer le cododo, c'est un acte sexuel qui peut traumatiser l'enfant. Donc ça, encore une fois, ça s'appuie sur rien, à part clairement une culture judéo-chrétienne très prononcée et limitante. Donc voilà, si ça peut aider les parents à dédramatiser un peu la situation. Et encore une fois, je tiens à le préciser, à titre personnel, même en sachant tout ça, moi je reste incapable et je n'ai absolument pas envie d'actes intimes et sexuels dans la même pièce que ma fille. Voilà. Je pense que ça concerne tout un chacun. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses ?
C'est déjà très rassurant ton discours. Je pense que ça va rassurer beaucoup de parents. Et c'est ça, il faut s'écouter, il faut voir avec quoi on est à l'aise et de se pencher peut-être vers des cultures où il y a le cododo est normal, où le cododo est pratiqué. Si c'est quelque chose qu'on a envie de pratiquer, bah de plutôt se pencher vers ces cultures-là et de s'inspirer de ce qui se passe. Et par rapport à l'intimité, bah de tout ce qu'on a dit, il y a tout ça qui est chouette à mettre en place. Donc c'est pas le cododo ne va pas venir freiner, casser votre vie intime, sauf si vous en avez décidé, sauf si vous ne vous donnez pas les moyens de faire différemment. Il y avait autre chose aussi que tu as dit aussi par rapport au cododo, c'est ça, c'est par exemple, je ne sais pas, si on est dans un rapport intime, que ce soit dans la même pièce ou pas que l'enfant, le fait que le bébé puisse se réveiller, du coup couper l'élan. Parce que ça, j'entends souvent aussi des parents dire « bah ouais, mais maintenant on ne le fait plus, parce que quand on commence, bah, soudainement on est coupé par l'enfant ». Donc oui, c'est un fait, hein. Comme je disais, les enfants peuvent pleurer, mais du coup ça me fait penser un petit peu comme la pratique de la méditation, où en fait la méditation c'est pas s'empêcher d'avoir des pensées, c'est de les laisser nous traverser et de se rendre compte aussi quand notre pensée divague, de pouvoir dire « Ah, là, ma pensée divague, et je la ramène ». Et c'est ça la méditation, c'est la pratique de ramener sa pensée à soi quand elle s'en va. Et là, ça sera un petit peu la même chose aussi. C'est une hypothèse à faire et que j'aimerais que les couples essayent. C'est de se dire, OK, on avait du désir sexuel. Il a été coupé par l'enfant, mais je vais arriver à faire ce switch de me dire, OK, le désir sexuel est parti, je vais le ramener et de revenir à sa sexualité une fois que l'enfant, s'assoupit. Et s'il se réveille encore après, la même chose, en fait, de vraiment, plutôt que de le voir comme quelque chose, ça y est, c'est foutu, on a été coupé une fois, j'ai plus envie, etc., de se dire, je vais faire l'exercice de me dire « c'est possible de désirer encore et de revenir à moi et de revenir à ce qui me fait du bien ». Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est une hypothèse. Je me dis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être fonctionner chez certains couples?
Alors, concrètement, hein, pour avoir vécu le l'interruption, voilà, c'est pas un moment plaisant, c'est sûr. C'est un moment clairement frustrant. Mais en même temps, moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la perception de l'acte sexuel. C'est que, est-ce qu'on est dans un moment où on vise une performance, c'est-à-dire avec un acte qui a vraiment un début et qui doit avoir une fin précise déterminée par telle ou telle performance, ou est-ce qu'on est dans un moment d'expérience qu'on vit et on accepte que ben, on a vécu ce moment-là. En effet, derrière, si on peut avoir la possibilité de revenir à ce désir sans que ce soit une injonction non plus, tant mieux. Mais après, si c'est pas là, ça sera un autre moment. Mais en tout cas, le moment d'expérience a été vécu, et moi, ce que tu vois, en tant que parent qui a vécu ces moments tellement frustrants, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, on avait envie de ce moment. Il s'est passé tel qu'il s'est passé, mais au moins on s'est pas limité à le vivre ou pas le vivre, tu vois.
Ouais, c'est super juste, ouais. C'est même encore mieux ce que tu dis. Et oui, et c'est comme tu dis, en fait, dès qu'on oublie, dès qu'on se retire de cette finalité ou de cette injonction à l'orgasme, etc., et qu'on est dans l'expérience, on avait envie, notre intention c'était de passer un chouette moment ensemble. Eh bien, c'est de toute manière un succès. Il a peut-être été écourté, mais ça ne veut pas dire qu'il a été fini. Il peut être fini dans quelques jours, il peut être continué dans quelques jours. Il se nourrit, en fait. Il se nourrit, et donc, il n'y a pas besoin, en fait, de faire d'efforts, du coup, d'avoir une envie sexuelle, puisque ce désir est toujours nourri.
Et puis, ça peut être l'occasion de se dire, tu vois, si par exemple, c'est pas repris là, ben, le lendemain matin, dans la cuisine... parce qu'on est resté un peu chaud, voilà, tu vois. Non, mais mine de rien, ça peut aussi entretenir, tu vois, comme tu le dis, ça entretient le truc et ça permet de peut-être d'oser sortir un petit peu de ses carcans, quoi.
Ouais. Et ça nourrit du coup le fantasme de se dire, oh là là, hier ça s'était terminé sur ça, et là je suis en train d'imaginer ce qui peut se passer après, et d'attendre ce moment, et donc il y a l'excitation, et c'est pour ça que je disais, ça nourrit du coup le désir sexuel.
Carrément. Merci beaucoup, Camille. On est arrivé au bout des thématiques qui avaient été abordées à travers vos questions. Je vous invite, celles et ceux qui nous écoutent, à ne pas hésiter à aller consulter, si besoin, un ou une sexologue. Alors, bien sûr, il y a Camille Bataillon qui est là, mais il y en a d'autres. Je vous invite à prendre des renseignements, que ce soit sur les réseaux ou près de chez vous. Voilà, ce sont des échanges qui ne peuvent que faire du bien. Et encore une fois, c'est pas je tiens à préciser que tout comme les sujets de santé mentale, consulter un ou une spécialiste n'est pas le fait qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal. C'est juste qu'à un moment, on a besoin d'en parler avec une personne qui est apte à le faire d'une manière, je dirais pas efficace, mais en tout cas d'une manière bienveillante et qui peut ouvrir des possibilités.
Et surtout si vous ressentez cette envie de ne pas vous bloquer par rapport à ça et d'y aller. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en juin, il y a mon premier livre qui sort justement sur la vie intime après bébé. Donc ça viendra nourrir notre discussion, Cédric. Et d'ailleurs, il y a plein de témoignages de papa, de maman. Et Cédric, tu en as fait partie. Et d'ailleurs, dans les bêta lecteurs, lectrices, c'est ce qui a été le plus apprécié, d'entendre des papas qui témoignent sur la vie intime après bébé.
Super, bah écoute, rendez-vous en juin, je ne manquerai pas la sortie. Merci beaucoup.
Merci
Camille.
Beaucoup Cédric, c'est toujours un plaisir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.
À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.